Alors nous allons prendre la parole. J'essaie de ne pas me perdre dans mes feuilles parce que voilà, j'ai écrit et ensuite recopié, mais pas complètement. Donc bien, que le Seigneur bénisse cet enseignement de sa parole que j'ai appelé la mission continue. La mission continue parce que l'apôtre Paul nous a donné l'exemple et il nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 18, sa position dans le monde. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile, c'est-à-dire sans être rémunéré, sans demander un salaire pour cela, d'après le contexte. La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Alors cette parole, il faut vraiment la recevoir d'abord comme étant propre à l'apôtre lui-même, qui précise dans l'introduction de son épître aux Romains, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Il avait été choisi, il avait été mis à part, et donc pour lui, il n'était pas question de délaisser en quoi que ce soit cette responsabilité, cette vocation qu'il avait reçue d'annoncer l'Évangile, au point qu'il dit, qu'il a ces paroles, donc « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Ça nous fait comprendre à quel point l'Évangile est important et capital, qu'il est absolument nécessaire que l'Évangile soit répandu dans le monde. Il fallait que l'Évangile soit connu et il faut toujours que l'Évangile soit connu. Alors, quand même, nous n'avons pas la même puissance de témoignage qu'un apôtre comme Paul. Ça me semble une évidence et nous avons vraiment besoin de demander la grâce au Seigneur d'avoir une part quand même dans la proclamation de l'Évangile. Car d'une certaine manière, cette parole quand même nous concerne également, malheur à nous, si nous n'annonçons pas l'Évangile que nous connaissons. Nous n'avons pas été spécifiquement mis à part comme l'apôtre, sauf peut-être quelques-uns qui en reçoivent le ministère, pour annoncer l'Évangile et le faire exclusivement, ce que faisait l'apôtre. Vous avez tous des responsabilités, des familles, un travail, et il vous faut assumer toutes ces responsabilités dans la société humaine. Mais vous avez aussi reçu l'Évangile. Et donc, il est également, vous avez une part dans cette responsabilité d'annoncer l'Évangile autour de vous. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut de Dieu, qui répond à la perdition de l'homme. C'est bien pourquoi il est capital de prêcher l'Évangile, c'est que l'homme sans Christ est perdu. L'homme qui a été créé pour la vie, mais qui s'est révolté et qui maintenant est prisonnier de la mort. Prisonnier de la peur, prisonnier de son péché, toutes ces choses qui dominent l'être humain. Donc, l'Évangile n'est rien d'autre que le don que Dieu a fait au monde de son propre Fils Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, on cite ce passage clé, mais c'est absolument fondamental. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'évangile, le don de Dieu au monde, le don. Dieu a donné son Fils pour le salut du monde. Depuis les jours de l'éternité, Dieu avait ce plan, hein, puisque nous voyons, si nous remontons dans quelques passages des Épîtres, nous comprenons que l'agneau de Dieu était préparé avant même la fondation du monde. Donc l'Évangile, dans son intention, remonte aux jours de l'éternité. Et puis ensuite, il y a eu la préparation de l'Évangile dans l'histoire humaine, après l'extinction presque totale de l'humanité lors du déluge, le jugement, la manifestation du jugement de Dieu sur le péché de l'homme, sur sa corruption, sur son idolâtrie. Après cette manifestation du jugement de Dieu, il y a eu la préparation de l'Évangile dans l'histoire, histoire d'un monde corrompu et en parallèle, histoire de la rédemption. L'histoire du monde se déroule depuis le déluge, elle a repris son cours et c'est quand même la même histoire qu'avant le déluge. C'est-à-dire que le péché, l'homme le corrompt et il est dominé par les puissances ennemies et il va à sa perte. Mais à partir de l'appel de Dieu à Abraham, l'évangile, l'histoire de l'évangile s'est mise en route. L'histoire de la rédemption d'humanité. Abraham s'est fié à la promesse de Dieu. Quitte ton pays, ta patrie, va vers le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham a cru, il s'est fié à la promesse de Dieu, c'est le point de départ. Ensuite, il y a eu le peuple qui a été établi à partir de la descendance d'Abraham, le peuple d'Israël. Et l'évangile s'est poursuivi par l'intervention de Moïse, de Dieu à travers Moïse, qui a libéré le peuple de la tutelle du prince de ce monde, du pharaon, et qui lui a donné une loi qui a légiféré, donc, pour la connaissance de Dieu, parce que le but de la loi, c'est que le peuple de Dieu, les croyants, connaissent leur Dieu. Donc Dieu a libéré, il a manifesté sa puissance en délivrant, et puis il a donné la loi. Ensuite, il y a eu le règne de David, un règne sous la conduite de l'Esprit de Dieu. David était conduit par l'Esprit Saint et il était dans l'humilité, contrairement aux hommes qui règnent en dominant, qui règnent par la violence, qui règnent par la ruse, qui règnent par toutes sortes de subterfuges. David a régné dans la connaissance, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu. Et il a conduit, il dit, le peuple avec des mains intelligentes. Mais tout au long de cette révélation, le peuple continuait de se détourner de son Seigneur. Et donc, il y a eu l'intervention régulière des prophètes qui ont constamment ravivé les promesses de Dieu et ramené le peuple dans la vision divine. Le peuple qui s'égare a besoin d'être ramené dans la vision du plan de Dieu, dans la connaissance de la volonté de Dieu. C'était le rôle des prophètes. Et tout cela a débouché sur un peuple humilié. Le peuple d'Israël, au temps des Romains, était un peuple humilié, qui est sorti de cette période éprouvante de l'histoire, humble, sans force, il n'avait plus d'autorité sur son propre pays, il ne faisait pas ses propres lois, c'était un peuple dans l'attente, un peuple contrit. Et c'est là, à ce moment, que Dieu a donné son Fils unique. Le salut de Dieu est intervenu. L'Évangile a d'abord éclairé ce peuple de la loi qui avait été puni pour son endurcissement. Mais Dieu lui a fait grâce et Jésus a bien dit qu'il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a d'abord prêché aux Juifs, il a refusé d'aller ailleurs. Jésus aurait pu déborder, aller en Syrie, aller beaucoup plus loin. Hein. Mais non, il s'est tenu à prêcher l'Évangile à ce peuple qui avait reçu la loi pour lui faire connaître sa délivrance. Et ensuite, par sa puissance interne, l'Évangile a débordé sur les nations qui étaient restées dans l'ignorance. Alors Dieu a donné des apôtres comme Paul, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs et docteurs, et même de simples disciples pour répandre l'Évangile dans le monde. L'Église est née de la prédication de l'Évangile, et c'est toujours le cas. C'est lorsque l'Évangile est prêché quelque part dans le monde que l'Église peut naître et se développer. Pour recevoir le bénéfice de l'Évangile et pour continuer à le répandre jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à la fin des temps. Alors aujourd'hui, c'est à nous de poursuivre la mission au XXIe siècle, dans notre contexte, avec la société qui continue son chemin à elle, avec les générations qui se succèdent et qui se corrompent et qui partent dans leurs idolâtries, dans leurs débauches, dans leurs immoralités, etc., etc. Ça continue, ça continuera jusqu'au bout. Mais parallèlement, au sein de cette société, demeure une Église vivante qui est appelée à prêcher le royaume de Dieu, appelée à la repentance envers Dieu et à voir les manifestations de sa grâce. Bien sûr, pour cela, il faut que chacun de nous fasse, on peut dire, refasse le parcours personnel dans notre humiliation, puisque le péché nous humilie tous. Dans notre humiliation, nous sommes appelés à nous fier en la promesse de Dieu, comme Abraham, et de ce fait entrer en rupture avec les paroles et les pensées de ce monde. Nous sommes appelés à regarder à la puissance de Christ et non à celle du prince de ce monde et à recevoir la connaissance de Dieu, de sa volonté. Nous sommes appelés à rechercher son règne et non le règne des hommes, comme David, avec les critères du règne de Dieu, et non pas en exploitant les ressources humaines et voilà toutes les manières de régner des hommes. Et puis nous laisser régulièrement remettre en cause, comme Israël était remis en cause par les prophètes, nous sommes régulièrement appelés à nous remettre en cause, à être remis en cause, pour saisir toujours à nouveau la vérité de Dieu lorsque nous nous égarons, nous aussi. Régulièrement, le péché est là, le relâchement qui fait que nous nous détournons de la voie du Seigneur. Eh bien, à ce moment-là, la parole est là et les frères et sœurs sont là pour nous remettre en cause, comme les prophètes, nous redire la vérité de Dieu et donc nous replacer dans l'obéissance et la foi au Seigneur. Mais c'est vraiment Jésus-Christ qui nous donne toutes ces choses. En se donnant pour nous à la croix, le Seigneur a décidé de nous sauver. Et il ne nous laisse pas sans secours. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Il a parachevé la révélation de Dieu, bien sûr, hein, et rien ne manque à celui qui se confie en lui. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef des dominations et des autorités, qui a été élevé au-dessus de tout. Tout a été mis sous ses pieds. Par conséquent, si nous sommes à Christ, nous recevons tout ce dont nous avons besoin. La loi a été donnée par Moïse, dit l'épître, enfin, l'évangile selon Jean. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a quelque chose en plus dans la révélation de Jésus-Christ. La grâce et la vérité. La grâce, parce que les offenses des hommes s'accumulent devant Dieu. Ils sont dans la révolte, ce qui entraîne toutes sortes de désordres et de souffrances au sein de l'humanité et dans la vie de chacun. En venant dans le monde, le Fils de Dieu faisait grâce aux hommes de leurs offenses par des gestes concrets. Il guérissait les malades, il pardonnait les péchés, il apportait toutes sortes de délivrances et Jésus guérissait à la seule condition de la foi que l'on mettait en lui. Il ne mettait aucune autre condition, croyez simplement. Et même si la foi des gens qui l'entouraient n'était pas parfaite, voyons bien avec les 10 lépreux qu'il guérit, il n'y en a qu'un seul qui vient rendre gloire à Dieu. Mais il les guérissait quand même. Jésus vraiment était là pour répandre les bénédictions de Dieu. Il passait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'était les manifestations du royaume de Dieu par lui. C'est simplement l'effet de la grâce de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et ça s'est manifesté par tout ce que Jésus a répandu comme bénédiction, tous les actes de bonté, de délivrance qu'il a manifesté, qu'il a fait en étant sur la terre au milieu des hommes. Il a porté que la bénédiction. C'est la grâce. Jésus a fait grâce. Jésus ne s'est pas arrêté aux offenses des hommes. Il a fait grâce, il a guéri, il a délivré, il a béni. Et en même temps, Jésus a porté la vérité, c'est-à-dire que Jésus prêchait aussi. Jésus enseignait la vérité de Dieu. Jésus prêchait la repentance, c'est ainsi qu'il commence dans l'évangile selon Marc. Jésus allait, je vais vous le prendre parce que, alors que Jean-Baptiste a fini son ministère, Jésus reprend dans les mêmes termes que Jean-Baptiste. Il est dit, versets 14 et 15 du chapitre 1 de l'évangile, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc Jésus prêchait la repentance, il pratiquait le baptême auquel il s'était lui-même soumis, alors il le pratiquait par l'entremise de ses disciples. Jésus enseignait le cœur de la loi, la bonne attitude envers Dieu et le prochain. C'est le sermon sur la montagne où Jésus reprend la manière dont les Juifs interprétaient la loi et il les replace dans ce qui est la bonne attitude, la bonne interprétation, la bonne compréhension de la loi de Dieu. Il avertissait aussi de ne pas se mettre en défaut devant Dieu, au risque du jugement final et de la damnation éternelle. Ça fait partie de l'enseignement de vérité du Seigneur Jésus. La vérité qu'il avait reçue de son Père, il l'a dispensée sans faillir. Toutes les paroles, tout l'enseignement de Dieu était donné à travers la bouche de Jésus. Et concernant ses propres disciples, ceux qui le suivaient, qui l'imitaient, Hein, il a demandé au Père de les sanctifier par la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Donc Jésus a porté en même temps que la grâce, il a porté la vérité. La vérité qui est appelée à rejoindre la vie des croyants. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que la loi qui enfermait les croyants dans une obéissance finalement servile et même hypocrite bien souvent, a laissé la place premièrement à un plein pardon et deuxièmement à une intégration de la vérité dans leur vie par une relation renouvelée avec le Père Créateur. La parole de Dieu peut renouveler toutes les pensées, les attitudes et les actions de ceux qui ont reçu le témoignage de la grâce de Dieu. Je mettrai ma loi dans leur cœur, dit le Seigneur. L'évangile concernait donc d'abord les croyants instruits par la loi, les juifs, mais il avait la vertu d'atteindre et de sauver les croyants étrangers à la loi, c'est-à-dire les païens, disons plutôt de susciter en eux la foi. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut du quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Pour être simple, le témoignage du Fils de Dieu a rejoint le cœur tourmenté des païens, parce qu'il n'y a aucun païen qui a un cœur qui vit dans la paix. Les croyants, les païens sont tourmentés et il les a amenés directement dans la lumière de l'amour de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont été libérés partout dans le monde de toutes les craintes et dominations des esprits mauvais, puisque le monde païen est marqué par la crainte des esprits. Tout cela aurait été bien sûr impossible sans l'acte suprême, l'offrande du corps de la vie parfaite de Christ à la croix. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 8. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il a été ressuscité par la puissance de Dieu, il est apparu, donc c'est un fait établi dans l'histoire de l'humanité. Le Christ est mort et ressuscité. Alors, nous vivons tous sur la base de cette offrande de Jésus-Christ à la croix, par laquelle toutes nos offenses ont été soustraites à la vue de notre Père Créateur. Jésus a tout pris sur lui. Dans les heures de ténèbres, le Fils de Dieu expié sans mot dire, toute la vie, sans mot dire, toute la virulence de nos péchés. Et par son sang qui a été versé, il nous purifiait de toutes nos souillures. Les Juifs, comme les païens, et maintenant je dirais les musulmans qui ont leur propre loi, peuvent avoir leur conscience purifiée par ce sacrifice et vivre dans l'assurance de la vie nouvelle qui leur est donnée par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. De la vie séparée de Dieu, nous sommes passés à la vie réconciliée avec Dieu. Et ça ne dépend pas de notre bonne volonté, mais de l'activation de la grâce de Dieu dans nos cœurs. C'est le Seigneur qui vient par son Saint-Esprit nous faire comprendre, réaliser, accepter que le Seigneur Jésus a été l'agneau immolé, qu'il a effacé nos péchés à la croix. C'est la grâce, l'activation de la grâce de Dieu dans nos cœurs. Laissez-vous pénétrer par la grâce de Dieu. Laissez-vous instruire par la grâce de Dieu. Et maintenant, l'Évangile s'intègre à nos vies de façon concrète. Premièrement, par le don de nous-mêmes à Dieu. Parce que si c'est lui qui nous sauve, nous délivre et nous instruit, nous voulons vraiment lui appartenir pour qu'il puisse le faire totalement. Donc nous nous donnons à Dieu, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous donnons au service de Dieu par Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui se glorifie dans nos vies. Nous désirons vraiment vivre de Dieu. Et puis le deuxième aspect, c'est la piété, tout simplement. Le commandement de Dieu est selon la piété, c'est une vie faite de modestie, de retenue, d'obéissance, de prière, d'adoration et de louange envers Dieu. C'est tout cela, la piété. Et alors cette vie de piété, bien sûr, s'oppose à la vie du monde et nous ne devons pas en avoir honte. Si le monde nous déconsidère ou nous méprise parce que nous ne vivons pas selon ses standards, eh bien, nous ne devons pas avoir honte de cela. Vraiment, accepter pleinement de vivre différemment que les gens de ce monde. Et il est d'ailleurs inévitable que la vie de piété nous attire les critiques et les condamnations du monde. Inévitable. Et troisièmement, la vie nouvelle est marquée par le souci des perdus. Puisque si nous avons fait l'expérience de la grâce pour nous-mêmes, nous désirons que ceux qui sont autour de nous la connaissent également. Le souci des perdus, transmettre le message de la grâce à ceux qui doivent encore le recevoir. Et je dirais indistinctement, ceux qui sont bien ou mal disposés, Dieu, si nous prêchons l'évangile, on peut dire à la masse, Dieu peut rejoindre des gens qui sont dans l'ignorance et parfois même bien endurcis envers lui. Et pour les quelques-uns qui le reçoivent, eh bien, c'est notre responsabilité de l'annoncer à tous. Et puis ensuite, il y a précisément ceux que nous rencontrons dans leur misère. Se laisser saisir par la compassion lorsque la détresse de quelqu'un se révèle devant nous. Et vraiment rejoindre cette âme dans sa solitude et vouloir la gagner par l'amour du Sauveur, lui faire comprendre que le Seigneur est là pour elle. C'est un peu différent que de la prédication générale de l'Évangile. C'est vraiment être entré en relation personnelle avec quelqu'un et vraiment désirer lui communiquer personnellement l'amour de Dieu et sa délivrance. Alors si nous avons ces deux fardeaux sur nos cœurs d'annoncer l'Évangile à tous et de répondre aux besoins précis de quelqu'un, eh bien nous préparons également pour avoir les armes, les possibilités d'avoir ce service efficace envers les autres. Donc, nous nous formons, nous réfléchissons, nous cherchons aussi des moyens, les bons moyens appropriés pour communiquer cet évangile. En toute chose, je dirais, pour vivre la vie nouvelle, nous nous tournons vers notre modèle, Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, même s'il était d'origine divine, est vraiment venu comme un homme. Il a vécu comme un homme. Il a vaincu comme un homme. En tant qu'homme, il a été parfait. En tant qu'homme, il a résisté au diable. En tant qu'homme, il a souffert. Donc, si Jésus a été éprouvé, s'il a résisté, obéi, accompli la volonté de Dieu, Le secours de son esprit peut nous donner aussi, à nous, d'être éprouvés, de résister, d'obéir et d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus-Christ, homme, qui a donné sa vie en rançon pour tous. Et donc, si l'homme Jésus a pu agir ainsi, nous pouvons, nous aussi, par le secours de son esprit, par la grâce, par l'action de Dieu en nous, mais en tant qu'homme, nous pouvons aussi agir dans le sens de Dieu. Il peut nous secourir. Hein. Il est dit qu'ayant été tenté comme nous en toute chose, il peut secourir ceux qui sont tentés. Bien sûr que nous sommes aussi appelés à imiter les apôtres, qui eux étaient des hommes pécheurs comme nous, mais dont la consécration a donné tant de fruits. Et puis n'oublions pas que nous sommes au XXIe siècle et que par conséquent, nous avons aussi derrière nous le témoignage des saints à travers tous les siècles. Et il est bon d'étudier l'histoire de l'Église, parce que même si l'histoire de l'Église est marquée par certaines défaillances, elle est également marquée par la victoire de nombreux saints. Il y a de nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui ont souffert pour Christ et qui ont triomphé. Donc nous sommes aussi édifiés et appelés dans notre temps à vivre nos propres expériences et à glorifier Dieu selon ce qu'il nous donnera de vivre aujourd'hui. Nous avons tout ça avec nous. Nous avons le témoignage des saints de tous les siècles. Nous avons notre Seigneur, nous avons ses apôtres et nous avons le témoignage des saints de tous les siècles. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, nous recevons le témoignage de ceux qui, dans le monde, œuvrent et tiennent ferme dans la foi au Seigneur. Alors que nous soyons renouvelés, soyez renouvelés, déjà dans cette acceptation pleine et entière de l'Évangile dans vos vies, que le Seigneur est vraiment là pour le pardon de vos péchés, pour votre édification, pour votre instruction et soyez prêts, décidés, organisés également pour dispenser la bonne nouvelle autour de vous. Et le Seigneur vous donnera des fruits. Vous aurez des déceptions, mais vous aurez aussi de grandes joies de voir des âmes être gagnées et sauvées et délivrées en comptant sur la puissance du Saint-Esprit. Amen.